Radio Caravane.
Radio Caravane.
Des saltos.
Des saltos.
Des saltos.
Au studio.
Radio Caravane, des saltos au studio.
Rencontre avec Gilles Caillot, de la compagnie Attention Fragile, qui participera à la nuit du cirque numérique le 14 novembre 2020. Il nous livre trois extraits de son livre « Lettres à de jeunes poètes », petits éléments à verser à la réflexion sur l'enseignement et l'écriture du cirque contemporain. On l'écoute.
Il y a deux écoles. Soit on vous demande, à vous, jeunes circassiens et circassiennes, d'apprendre à lire quelque chose avec ce que vous savez faire, soit on vous demande d'être les interprètes d'une écriture inventée par d'autres. Il y a même une troisième école qui vous demande juste d'exécuter devant les gens ce que vous savez faire de plus difficile. Ça s'appelle le cirque traditionnel, mais depuis la naissance, il y a une trentaine d'années, du nouveau cirque, c'est une école qui n'a plus trop la cote, en tout cas dans les écoles labellisées. Pourtant, il faut parler de ces trois écoles. La plupart du temps, c'est à la troisième injonction, celle justement que représente le cirque traditionnel, que répond l'appel du cirque. On a besoin d'exploits et de mesurer ses exploits au regard des autres. Le premier malentendu vient de là. Quand on a 12 ou 15 ans et qu'on veut faire du cirque, ce n'est presque jamais pour dire quelque chose. C'est juste parce qu'on a envie de savoir jongler ou faire un salto. Alors on travaille, on se fait mal, on se fait des petites ou des grandes peurs, on a des sensations impalpables ou intenses. On réussit, on rate, on tombe, on se blesse, on patiente, on guérit, et puis à nouveau, on travaille, on se fait mal, on se fait peur, et puis un jour, quelqu'un vous dit quand vous redescendez d'un trapèze ou d'une colonne à trois, les mains pleines de cales et les chevilles strappées mais le cœur battant fort, « C'est bien ce que tu fais, c'est difficile, c'est beau, c'est impressionnant, mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça ?» Si vous répondez « Je ne veux rien dire, je veux juste faire quelque chose de difficile, de beau, d'impressionnant », un regard sombre vous avertit, ce n'est pas la bonne réponse. Pourtant, qu'est-ce que vous vouliez dire avec un double salto ou en marchant sur un fil? Vous ne vous étiez pas posé la question. Vous vouliez juste savoir le faire, c'était déjà énorme. C'est la fin de votre innocence et de la confiance joyeuse qui vous animait. Sauter en l'air ne suffit plus, et même, on vous fait comprendre que ça ne sert pas à grand-chose. Pour ne rien arranger, les deux écoles dont je parlais plus haut divergent. L'une vous conseille soit auteur, l'autre soit interprète. La vérité, c'est que les deux injonctions sont terribles. Elles ont même un effet dévastateur en cela qu'elles vous donnent à croire que tous ces efforts, ces douleurs, ce travail, ce temps, en deux mots, votre détermination et votre passion, tout cela ne veut rien dire. Cette phrase si souvent entendue, « Qu'est-ce que tu veux dire avec ta technique ?» nie le cirque. Elle nie votre engagement et vous sépare de vous-même. J'ai toujours l'impression, lorsque je commence à travailler avec de jeunes circassiens, d'être devant vous comme devant des orphelins. Que ce soit pour un stage, une création, une semaine de recherche, je vois bien l'énorme potentiel de chacun, le désir immense, l'appétit, la conviction, l'engagement. Mais cela ne fait que montrer plus clairement combien vous arrivez sur la piste désarmé, comme si vous ne disposiez d'aucun outil, voire d'aucun indice qui vous aiderait à exprimer ce que vous portez en vous avec tant d'intensité. Lorsque je dis désarmé, je ne parle pas de la maladresse qui vous rend précieux. Je parle vraiment d'une sorte de solitude, parfois affolée, parfois résignée, parfois coléreuse aussi, dans laquelle on sent que vous vous débattez, comme si on vous avait appris un tas de choses, sauf à chercher ce que vous êtes justement venu chercher. En face de moi, les questions sont toujours les mêmes. Pourquoi je suis là? Comment exprimer ce que je porte? Je suis plein de quelque chose, mais de quoi? Pourquoi je ne suis jamais satisfait de moi-même? J'ai choisi le cirque pour m'exprimer, mais est-ce que le cirque ne m'empêche pas de m'exprimer? Pourquoi je m'ennuie? Comment écrire ce que j'ai envie de jouer? Je veux partager avec le public, mais ma technique m'enferme. Comment faire? Est-ce que j'ai le droit d'en avoir marre? Etc. Ces questions ne sont pas à prendre à la légère. Ce sont les bonnes questions. Il faut s'y coltiner ensemble. Les plus mauvaises réponses qu'on a à vous apporter, et je ne parle pas seulement de réponses verbales, je parle aussi de pratiques pédagogiques et de création, les plus mauvaises réponses sont, je crois, premièrement de vous inviter à laisser quelqu'un d'autre répondre à votre place en pariant que l'ouverture à des univers esthétiques multiples suffira à vous construire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir recours aux auteurs, je dis qu'il ne faut pas vous persuader que la question du sens n'est pas votre affaire. Et deuxièmement, inversement, vous demandez de rajouter du sens à un savoir, une pratique qu'on ramène à une simple prestation technique, insinuant que le cirque à lui seul ne dit rien, qu'il faut lui ajouter les habits de la danse ou du théâtre. Une des premières choses que je vous ai demandé, je ne l'ai pas inventé pour vous, hein, c'est un préliminaire obligé à ma rencontre avec des artistes de cirque, c'est de montrer bout à bout les 10 mouvements dont vous étiez le plus ou la plus fier, sans costume, sans transition, sans chorégraphie, sans scénographie, sans personnage, sans rien d'autre que ces 10 actes difficiles que vous réalisiez et auxquels vous aviez travaillé avec acharnement. Un peu de temps offert au silence. Un peu de temps pour regarder ce que vous saviez et aimiez faire et essayer de voir ce que ça et ça seulement arrivait à exprimer. Juste du temps pour découvrir ensemble quel poème vous étiez. Comme presque à chaque fois que je propose cette aventure, vous n'aviez jamais fait cette expérience de cirque déshabillé, et il faut bien l'avouer, au moment où je vous l'ai annoncé, vous n'en avez même pas vu l'intérêt. Comme si vous aviez déjà admis l'idée que le cirque dans sa matière ne voulait rien dire. Mais comme vous êtes gentil, vous avez bien voulu vous prêter, même sans y croire, à ma demande, et on s'est regardé une journée entière, une journée immense, à ne vous regarder faire que du cirque. Il y a eu Lucia, au trapèze, et Liam qui l'allongeait, votre lien si fort. C'était la première fois, Liam, que tu avais la vie de Lucia entre tes mains. Et pourtant, quand vous avez fini, tu as dit « On n'a pas pu tout faire ». Et je t'ai répondu « Oui, mais c'est votre première fois. On ne fait jamais tout la première fois. » Il y a eu des rires, une voix intérieure mais perceptible. Il parle de sexe, là. On ne se connaissait pas encore. J'ai continué à profiter déjà de ça. Pourquoi vous ne profitez jamais de ce que vous faites? Vous vous focalisez toujours sur ce que vous ne savez pas encore faire. Vous prenez ça pour de l'humilité, mais en réalité, c'est un excès d'orgueil déguisé. Et la journée ne faisait que commencer. Il y a eu Andrea comme un chien fou au mât. Victoria obstinée sur son fil tragique, murée dans son désir d'amour et se refusant à nous le réclamer. Xavier et Patricia comme des gamins heureux. Je me souviens de vous avoir dit « Vous êtes comme deux frères ». Il y a eu Déborah au tissu, tu avais l'air d'attendre quelque chose sans impatience, peut-être que ta vraie vie commence. Il y a eu Teresa en kamikaze heureuse, mangeant son fil à plein ventre, Guilhem et Jules dans un ring où ils ne se jouaient plus que de l'amitié. Oh, la beauté de votre douceur éclatante et espiègle. Il y a eu Réanne et son orage intérieur que la corde calmait, Josinaldo si intensément au présent, à la fois la flamme et le vent qui risquaient de l'éteindre, Kim et le regard calme qu'elle posait sur nous au milieu de sa recherche énigmatique. Il y a eu Elena, super-héroïne éphémère. Je me souviens que son trapèze nettoyait l'ombre qui ennuageait souvent son regard et votre appétit, le regard généreux que vous portiez sur vos camarades. Mais je me rappelle surtout comment l'étonnement s'est mué en révélation au cours de la journée. 10 mouvements sans rien d'autre pouvaient contenir autant de sens, révéler autant de chacun. Le cirque, le même que celui que vous rêviez de faire au tout début de votre vie d'enfant, cirque, l'envie d'être là-haut, à l'envers dans le vide, l'envie d'exploit, de dépassement de soi-même, tout ça pouvait parler. Un salto n'était pas un acte technique auquel il fallait ajouter des talons, du maquillage ou une intention pour qu'il devienne signifiant. Un salto était à lui seul un acte artistique. Sauter, c'était déjà écrire. Puisque le langage façonne la pensée, j'ai interdit à partir de ce moment qu'on emploie le mot technique pour parler des figures. Arrêter les phrases du genre « je te montre ma technique, j'en suis là de ma technique ». Il faudrait peut-être à chaque fois commencer par là.
Peux-tu te présenter, s'il te plaît ?
Oui, eh bien, je suis Gilles Caillot. Ça fait à peu près 35 ans que je suis devenu garçon de scène, ou garçon de théâtre, ou garçon de piste, ou garçon de cirque. Voilà, plus d'une vingtaine d'années maintenant aussi que j'enseigne. Dans des écoles, j'ai enseigné à Châtellerault, au CNAC, à l'Homme beaucoup, à Piste d'Azur, au Lido. Et puis un jour, je me suis rendu compte aussi que le théâtre me suffisait pas à dire plein de choses et que j'arrivais à dire en écrivant du cirque ce que j'arrivais pas quand j'écrivais du théâtre. Voilà.
Alors tu viens de nous livrer un extrait de Lettres à de jeunes poètes. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce premier extrait ?
Je l'ai choisi parce que si j'avais lu avant, c'était très joli, mais c'était plus centré sur l'aventure dont ce livre procède. Parce qu'en fait, j'ai écrit ce livre tous les matins pendant que je répétais avec 14 élèves de la 22e ou 23e promo du CNAC, une reprise de répertoire. On a repris Fournaise ensemble, qui est un de mes vieux spectacles que j'ai créé en 2007. Et je trouvais l'aventure tellement forte que, que je me suis levé tous les matins à 4 heures, et qu'entre 4 et 8, j'ai écrit tous les matins un chapitre ou un demi-chapitre de... Parce que ça m'aidait à... En fait, la force de l'aventure m'aidait à trouver un peu moins idiot que d'habitude, ou le fait de marquer des choses que je pense depuis longtemps, ou que je dis à mes élèves ou aux artistes que j'accompagne, et que j'avais envie de coucher sur le papier, voilà. Donc le livre est à la fois raconte un quand j'en ai besoin, l'aventure, ou des choses même plus intimes, raconte l'aventure que je vis, qu'on vit ensemble, et on va dire comment ça cristallise la pensée. Donc je pense, en fait, c'est le chapitre 3 et 4 là, que j'ai lu, et pour moi c'est le premier moment où je dis ce qui me semble le plus important, en fait. C'est-à-dire, quelle confiance, c'est cette notion d'orphelin, là, elle est importante pour moi. C'est-à-dire, je rencontre beaucoup de jeunes gens, créateurs, artistes, étudiants, mais enfin, c'est de toute façon à la fin des créateurs, des artistes, même quand ils ne sont pas encore sortis de l'école. Et je les vois porteurs d'un savoir et d'une sorte d'intuition très très bonne. Mais comme ils sont confrontés la plupart du temps à un système qui est tenu par des gens plutôt de ma génération, donc qui sont plus âgés, dans un système très vertical, qui sclérose un peu les choses, en tout cas qui les ferme, en leur disant voilà ce qu'il faut, un système d'école, de conservatoire un peu, même si maintenant les écoles sont beaucoup plus ouvertes, ça met en doute c'est comme s'ils avaient tout d'un coup des doutes sur leurs propres intuitions, et moi j'ai écrit ce livre pour leur dire mais vous avez raison de penser ce que vous pensez, en fait. Même si vous ne le pensez pas encore, même si c'est juste à l'état de pensée mutilée et confuse, vous avez raison, en fait. Voilà.
Tu insistes dans ces chapitres-là sur la nécessité, on a l'impression que le cirque doit se justifier dans d'autres, par le théâtre, par la danse, par... Et on a l'impression que ton propos, c'est de dire qu'il peut se justifier en lui-même ?
Bah, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, quand je vois un corps qui bouge, un salto n'est pas une technique, c'est déjà un langage. Enfin, quand un peintre prend un pinceau, déjà, il pose un trait sur la toile, et c'est le début d'une œuvre. C'est pas un acte technique, c'est déjà un acte créateur. Donc, si on ne fait pas confiance au corps dans le cirque, et qu'on n'arrête pas de rajouter... des sens, mais voilà, c'est important pour moi de dire mais faites confiance au cirque. Moi qui viens justement du théâtre, je sais pourquoi je viens au cirque. Je viens pas au cirque pour que le cirque me raconte, enfin, et je viens pas, quand je dis je viens en faire, parce que justement les corps portent une sorte de vérité. On soupçonne jamais un circassien de mensonge, parce que quand on est à 10 mètres de haut, bah, à un moment des qu'on parle ou quoi qu'on fasse, en fait, on est dans la vérité du risque. Et moi qui viens du monde de l'illusion et du mensonge, je trouve ça très très beau, ça. Enfin, il y a une sorte d'évidence, en fait, d'évidence qui raconte une part importante de nous. Enfin, une rencontre qu'on a chacun avec sa propre vérité, en fait. Voilà. Donc, quand le cirque raconte cette histoire, il est jamais plus fort que quand il raconte cette histoire. Il y a aussi cette histoire, c'est que quand je vois un môme qui a bossé 5 ou 8 ans pour faire un double arrière, ou pour faire une figure difficile, ou pour marcher à 5 mètres de haut, voire même pour juste quelqu'un qui aurait juste peur de se mettre à 50 cm, voilà, c'est, y a pas une forme de courage, il y a de l'obstination et des courages qu'on a chacun à la mesure. Mais je trouve que l'histoire que ça raconte est tellement plus belle, en fait. Cette bataille, elle est tellement visible à l'intérieur d'une acrobatie, d'une étrangeté. Je raconte à un moment dans le bouquin que très souvent, quand justement je vois qu'ils n'arrivent pas à être persuadés que leur corps parle, je demande si par exemple j'en ai deux dans un stage qui font du machinois, par exemple, ou deux qui font de la corde, je leur dis, bah, prépare exactement tous les deux la même routine. Et on les regarde les unes à côté des autres, ou les unes après les autres, et on voit bien, on s'aperçoit bien que même en faisant exactement les mêmes gestes, ça n'est pas du tout le même, comme je dis, le même poème qui en est. C'est-à-dire qu'après, on parle ensemble, et puis on laisse venir toutes les impressions qui nous sont venues déjà avec ce cirque pur. Bon, je pense qu'il faut faire confiance aux artistes et aussi aux spectateurs. C'est-à-dire que le cirque procède de l'entertainment, c'est-à-dire Regarder un numéro sans musique, par exemple, c'est un apprentissage pour des élèves parce que la musique, elle est empathique, elle met tout le monde dans la même émotion. Donc on rajoute souvent de la musique d'abord dans le travail parce qu'on a peur de pas se suffire. C'est un problème souvent de légitimité, pourquoi c'est moi ? Donc on s'habille aussi avec la musique et puis aussi on a peur de pas être compris. Donc bah, c'est sûr que si l'émotion est portée par la musique, elle est univoque. Alors qu'un moment de cirque dans le silence, bah, quand les gens en parlent, les gens qui l'ont vu, ils n'ont pas du tout vu la même chose. Donc, et la personne qui l'a fait, elle est riche de tous ces sens-là, et de laisser le spectateur, les gens, tout simplement. Exercer aussi leur travail de spectateur, et donc exercer le cirque en tant que spectateur, mais laisser la liberté aux gens de voir ce qu'ils veulent et de ressentir ce qu'ils veulent devant quelque chose. Ne pas les aiguiller dans une émotion précise ou dans une sensation précise, c'est leur permettre d'être acteurs, en fait. D'être autant acteurs, mais de leur côté du regard. Voilà.
Ce podcast en trois parties a été réalisé par Alexandra Josse et Sylvain Bardi pour Médias communs et Radio Caravane. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez toutes nos émissions sur radiocaravane.net.